marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le Parlement britannique.
La reine y arrive en carrosse une fois par an. Élisabeth II inaugure chaque nouvelle session parlementaire pour marquer le prestige de ce lieu, la Chambre des communes britanniques. Si tous les ministres et députés se comportent impeccablement le jour de la visite de Sa Majesté, voici à quoi ressemble la Chambre la plupart des autres jours de l'année.
Le système parlementaire britannique est fier de se rattacher à une très longue histoire. Un exemple encore ces derniers jours, alors que l'Union européenne presse les communes de procéder à un troisième vote sur l'accord de sortie signé à Bruxelles par Theresa May, le speaker de la Chambre, c'est lui que vous venez d'entendre, rappelant à l'ordre ses collègues, le speaker de la Chambre refuse en invoquant, au grand étonnement des médias, une jurisprudence du XVIIe siècle. Si on veut remonter encore plus loin, on peut d'ailleurs soutenir que le principe parlementaire a commencé à l'emporter en 1215, date de la Grande Charte. Depuis ce moment, le souverain est soumis au droit comme tout un chacun. Ensuite, par un effet de sédimentation et grâce à deux révolutions tout de même, l'idée s'est imposée que le pouvoir ultime repose dans le Parlement. Ainsi, progressivement, le principe monarchique et le principe parlementaire on finit par cohabiter, la monarchie gardant un pouvoir honorifique, ce qui n'est pas rien. L'accommodement entre le principe parlementaire et le principe populaire peut lui être difficile. Les parlementaires se sont d'ailleurs longtemps passés d'électeurs. Avant 1832 et l'élargissement du droit de vote, les sujets de Sa Majesté étaient bien peu à en disposer. Progressivement, tout se fait progressivement au Royaume-Uni. Ils sont devenus des citoyens, même si le mot n'a pas le même sens exactement qu'en France. En 1975, ils ont pour la première fois tenté du référendum national. À cette époque, ils ont voté à 67% pour le maintien dans l'Europe unie. En 2016, ils ont choisi à 52% de la quitter. Mais le Parlement ne pouvait pas ne pas revendiquer le contrôle des conditions de sortie. Et depuis, la polémique européenne zèbre d'éclairs le traditionnel bipartisme de la Chambre des communes. Soudain, des masses d'air échauffées, portées par des vents mauvais, convergent dangereusement. Le système parlementaire britannique, dont on se félicitait généralement de l'efficacité, serait-il entré dans le poteau noir ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Elizabeth Gibson Morgan, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez beaucoup étudié le système parlementaire britannique, avec plusieurs livres en langue anglaise, et puis vous fréquentez Westminster régulièrement. Cameron, l'ancien Premier ministre conservateur qui a déclenché la crise avec son référendum, lancé peut-être avec un peu de légèreté, a négligé de renouveler sa carte à Westminster. Vous en avez une ?
Oui, j'avoue, j'en ai une. Je dirais ce qui se passe en ce moment, c'est...
Pas le poteau noir pour vous.
Du tout. C'est le grand retour du Parlement dans la splendeur de ses procédures parlementaires. Il réaffirme son autorité et son indépendance. Mais après tout, le slogan des partisans du Brexit n'était-il pas de restaurer la souveraineté parlementaire, de reprendre le contrôle de nos lois ?
Oui, mais vous êtes un peu de parti pris pour avoir fréquenté, et encore tout dernièrement, les allées de Westminster. Vous allez d'ailleurs nous y guider, parce que c'est pas très simple pour nous de nous y reconnaître dans la stratification des conventions qui ont abouti à un certain formalisme. Alors, chacun a en mémoire, cependant, les images de l'ouverture, en principe c'est au mois d'octobre, de chaque session parlementaire. L'ouverture, je dis bien l'ouverture, est télévisée depuis 1958.
Pour la première fois, la caméra a pénétré au Parlement britannique. Elle a pu enregistrer autour de la couronne impériale aux 2783 diamants les rites séculaires de l'ouverture de la session parlementaire. Les rites sont précis. Le glaive de l'État est confié à Lord Montgomery, tandis qu'on présente le chapeau de la maintenance, qui est le même depuis 400 ans. Le cortège approche de Westminster où Sa Majesté va faire son entrée. Mais la traditionnelle indépendance du Parlement britannique veut que la porte ne s'ouvre qu'avec l'assentiment des membres de l'Assemblée.
On va pénétrer progressivement, c'est le maître mot à propos du Royaume-Uni, à l'intérieur de Westminster. Mais là, on s'arrête à cette phrase, Elizabeth Gibson. Les portes ne s'ouvrent qu'avec l'assentiment des membres de l'Assemblée.
Oui. Alors, avant cela, j'aimerais revenir justement sur ce grand moment de la vie parlementaire et de la vie politique du pays qui réunit une fois par an tous les acteurs de la vie politique, qui est très ritualisé, très codifié, qui est ce moment de l'ouverture du Parlement. Il nous montre la trinité institutionnelle que forme le Parlement, car l'on oublie que celui-ci est composé non seulement des deux chambres, chambre des communes et chambre des lords, mais aussi du monarque. Très significativement d'ailleurs, le fait que les lois soient votées au nom et avec l'assentiment royal nous est rappelé dans l'expression « the crown in parliament ». Et la première chose que l'on voit dans cette cérémonie d'ouverture, c'est la couronne posée sur un coussin qui arrive en premier avant même qu'elle ne soit déposée sur la tête du souverain. C'est un moment clé aussi donc qui réunit à la fois les membres de l'opposition et du gouvernement, les leaders de l'opposition le chef et le premier ministre défilent côte à côte. Alors, on parlait de ces portes fermées, pourquoi ? Parce que cela date d'un épisode important dans l'histoire du pays, 1642, le roi Charles Ier arrive avec ses hommes en armes pour tenter d'arrêter 5 membres du Parlement. Il s'oppose à la fermeté du speaker de l'époque, William Lenthal, qui lui oppose une fin de non-recevoir.
C'est la première révolution
voilà. Et depuis cette
anglaise.
Époque, le monarque n'a plus le droit de pénétrer au sein de la Chambre des communes.
Mais c'est au sein de la Chambre des Lords qu'il va faire, ou qu'elle va faire, nous sommes toujours dans un reportage de l'époque d'Elisabeth II, son fameux discours du trône à l'occasion de la nouvelle session parlementaire.
Le seigneur chancelier, précédé de la masse symbolisant le pouvoir parlementaire, ouvre la session de la Chambre haute. L'huissier à la verge noire, dont l'unique fonction consiste à conduire la souveraine, une fois par an, au trône qui lui est réservé à la Chambre des seigneurs, accueille la reine à son arrivée. Elle entre précédée par le comte maréchal, champion héréditaire de la couronne, et le grand chambellan marchant tous deux à reculons, épée au clair. C'est dans ce lieu que la souveraine ouvre chaque année la session parlementaire, en lisant le discours préparé par son premier ministre, mais présenté à genoux par le lord chancelier, président de la Chambre des seigneurs. Le chef du gouvernement, flanqué du chef de l'opposition et des députés, invités en voisin, assiste debout au fond de la salle à la lecture du texte qu'il a écrit pour fixer les orientations de son gouvernement. Ici, Monsieur Macmillan.
Alors, nous sommes à l'époque de Macmillan, Premier ministre. Ça fait donc un moment que l'ouverture est télévisée. Elle l'est depuis 1958. C'est seulement en 1985 que les séances de la Chambre des Lords seront télévisées. On va retrouver d'ailleurs un peu vieilli le cher Macmillan.
Le vénérable Parlement britannique, né au XVIe siècle, vient de faire une lourde concession au temps moderne en permettant à Dame Télévision de violer son intimité. Le principal débat a porté sur l'économie et la vedette a été l'ancien Premier ministre Harold Macmillan, aujourd'hui Lord Stockton, âgé de 90 ans, qui a plaidé avec conviction pour l'unité nationale face aux défis que représente la troisième révolution industrielle. En permettant la retransmission de leurs débats, les lords se font une bonne publicité et d'un coup mettent en lumière leurs travaux négligés généralement par les médias au profit de ceux des communes.
Alors avec vous, nous parlons, Elizabeth Gibson, du Parlement britannique. Comme je sais que vous aimez ce qui est différent, il faut que vous nous parliez d'abord de la Chambre des Lords à laquelle vous avez consacré un livre, parce que ça c'est extrêmement différent.
Oui, c'est une chambre qui, à l'origine, était la chambre historiquement première, et qui était une chambre d'origine aristocratique. Elle était composée essentiellement de l'aristocratie terrienne, et on parlait ainsi de the landed chamber.
C'était une chambre héréditaire.
Une chambre entièrement héréditaire au départ. Un texte fondamental a été le texte de 1999 qui a été introduit par le gouvernement de Tony Blair pour mettre fin à ce qui était considéré comme une anomalie dans la démocratie britannique, une chambre fondée sur le principe d'hérédité.
Donc maintenant, la composition est plus libre. Enfin, je veux dire qu'elle est téléguidée par le gouvernement qui peut faire des fournées de pairs.
Alors en fait, il faut savoir que les pairs héréditaires n'ont pas totalement disparu puisque un amendement a été voté à ce texte permettant à 92% d'entre eux, soit 10% de la Chambre des Lords de l'époque, de rester jusqu'à ce que la deuxième étape de la réforme de la Chambre des Lords soit adoptée, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on arrive à trouver un consensus sur la composition de cette Chambre, consensus que l'on attend toujours. Donc c'est une chambre qui est composée non seulement de pairs temporels, qui sont donc des pairs nommés à vie, qui viennent de tous horizons. Aujourd'hui, c'est intéressant de noter qu'il y a, par exemple, des représentants du monde syndical qui sont là dans cette chambre-là. Donc une beaucoup plus grande diversité sur le plan social de personnes qui ont été honorées d'une pairie pour service rendu à la nation, que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine universitaire, de la science, etc.
Alors, ils sont nombreux les pairs, surtout que comme le mandat n'a pas de fin, sauf la fin de vie, le nombre de nouveaux arrivants dépasse celui de ceux qui disparaissent. Il y a combien de lords, combien de membres des communes, parce qu'on va passer aux communes maintenant.
Oui, alors il est toujours difficile de donner un nombre précis du nombre de membres de la Chambre des Lords, puisqu'il varie finalement sans arrêt et qu'il n'y a pas de plafond, contrairement à ce qui est écrit dans la Constitution française et dans notre article 24. Aussi, il y a à l'heure actuelle plus de 800 membres, mais seuls entre 300 et 400 siègent d'une manière régulière.
Et puis aux communes, il y a davantage de députés qu'il n'y en a à l'Assemblée nationale française. Alors, c'est seulement à partir de 1989, donc après les retransmissions télévisées de la Chambre des Lords, que la télévision pénètre aux communes. Et alors on voit les images là. C'est tout à fait étonnant, d'abord parce que c'est très exigu. Et puis, il n'y a pas de micro ?
Oui, les micros sont partout en fait. Ce sont des micros suspendus dans l'ensemble de la chambre.
Il n'y a pas de place pour mettre ses dossiers, il n'y a pas de place pour mettre des micros. Il y a une grande table au centre. Je vois la photo qui a été publiée dans Le Monde et puis nos auditeurs ont vu à la télévision ces images. Et sur la grande table est posée une masse, sont disposés des livres et la Première ministre parle depuis, non pas un pupitre, mais quoi, un coffre, une malle, qu'est-ce que c'est tout ça ?
Voilà. Alors d'abord, je voudrais rappeler que la Chambre des communes, telle qu'elle existait à l'époque, a été entièrement détruite au moment de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque du Blitz.
Elle mais a reconstituée, été reconstituée. Alors le décor à l'intérieur, puisqu'on a la chance maintenant de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est cette table, cette malle, ces livres ?
Alors, il y a d'abord, lorsque l'on rentre dans la chambre, en face de soi, le fauteuil du speaker, qui est donc le président de la chambre. Devant lui se trouvent les spécialistes des procédures parlementaires, ou les greffiers, qui sont parmi les seuls à avoir conservé la perruque, d'ailleurs. Nous avons, en rentrant à la gauche, les représentants du gouvernement. En face, les représentants de l'opposition. Il y a une disposition qui encourage, je dirais, la confrontation entre les représentants du gouvernement et de l'opposition. Et au milieu, effectivement, une table avec deux documents importants. L'ouvrage de Thomas Erskine May qui définit les règles de procédure, qui est une véritable bible, si vous me permettez l'expression, pour les parlementaires, auxquels ils font référence en permanence. Et puis, il y a également le règlement intérieur de l'Assemblée. Vous parlez de cette boîte, qu'on appelle de dispatch box, c'est-à-dire la boîte à dépêches sur lesquelles s'appuient les différents intervenants. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle contient, Elle ne contient pas des dépêches, mais, de manière peut-être surprenante, pour un observateur extérieur, elle comprend en fait les grands textes religieux sur lesquels les membres de la Chambre des communes sont invités à prêter serment au début de leur mandat.
On comprend pourquoi vous aimez le Parlement britannique, c'est si différent. Alors ça, c'est le Parlement apparemment
mais très
intemporel.
Codifié, très codifié, encore une
et
fois.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui Elizabeth Gibson Morgan, nous parlons du Parlement britannique. Alors le système parlementaire a été bousculé par l'introduction récemment de référendums. Avant de parler des référendums sur l'Europe, qui sont des référendums nationaux, quand même un mot de la procédure du référendum régional. Parce que le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre plus l'Écosse plus le Pays de Galles plus l'Irlande du Nord. Et Tony Blair, que vous présentiez tout à l'heure comme le grand réformateur de la Chambre des Lords, avait aussi mis au point des procédures de dévolution à chacune des composantes du Royaume-Uni qui ont été acceptées par les populations concernées lors de référendums régionaux.
Alors c'est en effet Tony Blair qui a ravivé ce processus de dévolution. Une tentative avait été faite par l'organisation de référendums régionaux à la fin des années 70 sous le gouvernement de Callaghan, mais sans véritable succès. Aussi, une série de référendums locaux ou régionaux ont été organisés en 1997, des référendums pré-législatifs en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles. Ils ont été ensuite entérinés par trois textes de loi qui ont introduit la dévolution, donc respectivement en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles.
Alors il y a un Parlement à Édimbourg que la reine a pris le soin d'inaugurer et il va y avoir le nom de Parlement qui va être appliqué bientôt à l'Assemblée du Pays de Galles.
Oui, alors effectivement, et ce qui est intéressant de noter dans ces parlements ou assemblées au niveau régional, c'est que ce sont des organismes, des assemblées consultatives qui sont en fait monocamérales, ce qui s'explique par la taille des nations concernées, et également qui sont devenues de façon très active. On va célébrer cette année d'ailleurs les 20 ans de la dévolution, mais ce qui est important de savoir, c'est que ces parlements ou assemblées ne sont pas souverains, contrairement au Parlement de Westminster qui est le seul à pouvoir légiférer pour l'ensemble du Royaume-Uni.
Oui, mais quand un référendum national, alors il est introduit en 75 sur le thème « Est-ce que vous voulez vous maintenir dans l'Europe unie ?» Il est renouvelé en 2016 « Est-ce que vous voulez quitter le Royaume-Uni ?» Quand il y a un référendum national, la volonté populaire doit l'emporter sur la volonté parlementaire. Sauf que les communes ne pouvaient pas ne pas vouloir discuter des conditions de sortie de l'Union européenne décidée par une majorité de 52% de la population.
Alors, il y a eu 3 référendums organisés au niveau national, dont 2 portés effectivement sur l'Europe. Celui de juin 1975, en particulier, a été en fait la première fois où un référendum national a été testé dans le pays. Et comme vous le rappeliez au début de notre émission, où 67% des Britanniques se sont prononcés pour le maintien dans ce qui était à l'époque la communauté économique européenne. Il est très intéressant de comparer justement ce référendum de juin 1975 et celui de juin 2016, parce que la position des 4 nations est très différente, et c'est quasiment l'inverse d'ailleurs. Car à l'époque, c'était l'Angleterre et le Pays de Galles qui étaient davantage favorables à l'Europe que l'Écosse et l'Irlande du Nord. Or, on a abouti à l'inverse au référendum de juin 2016. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter le rôle des médias, qui étaient dans l'ensemble en faveur du maintien dans la communauté économique européenne en 1975, ce qui n'était pas le cas pour l'essentiel d'entre eux dans le cas du référendum de juin 2016.
Ce qui va faire peut-être dire aux médias aujourd'hui que la volonté populaire n'est pas respectée avec les nouvelles procédures parlementaires qui sont multipliées. Alors, je voudrais qu'on examine 2 de ces procédures parlementaires qui ont été mises en œuvre. En décembre 2018, l'accord n'était pas encore signé, loin de là, entre Theresa May et la Commission européenne à Bruxelles. Des conservateurs, des membres de son parti, hostiles à sa politique, ont lancé un vote de défiance.
Le pays, les travailleurs et les entreprises sont de plus en plus inquiets. Nous sommes au milieu d'une crise constitutionnelle. Et c'est la Première ministre qui en est responsable. Elle dirige le gouvernement le plus anarchique et désorganisé de l'histoire du Royaume-Uni. Même les ministères ont cessé de fonctionner.
Dotée d'une majorité a priori très faible, Theresa May, cependant, l'emporte, le vote de défiance est rejeté, 200 voix contre 117.
Pour sauver sa tête, Theresa May a promis aux conservateurs de démissionner avant les prochaines élections législatives en 2022, le temps de lancer le processus de sortie de l'Union européenne.
Maintenant, il faut qu'on avance, qu'on mette en place le Brexit pour construire un meilleur avenir pour ce pays. Un Brexit qui nous rassemble au lieu d'accentuer les divisions. Et ça doit commencer dans ce Parlement, à Westminster.
Oui, ben on verra la suite, vous la connaissez. Mais voilà. Quand un vote de défiance a été rejeté, Elizabeth Gibson, la dissolution ne peut pas intervenir. Il ne peut pas y avoir non plus un vote de défiance avant une durée X.
Alors, il y a une distinction importante à faire entre ce qu'on vient d'entendre, qui était en fait un vote de défiance ou une motion de censure interne au Parti conservateur, déposée par les membres les plus en faveur du Brexit, en particulier du groupe European Research Group de M. Rees-Mogg. C'était donc
une procédure à l'intérieur du parti dominant,
au Parti conservateur, et qui ne permet pas de déposer une nouvelle motion contre le chef de file du parti avant un an, c'est-à-dire avant décembre 2019. Donc il faut faire une distinction entre ce type de motion-là et puis la motion de censure déposée cette fois par l'opposition institutionnalisée, qui a été également tentée une première fois, mais sans succès. Le chef de file de l'opposition, Jeremy Corbyn, néglige pas la possibilité de déposer à nouveau une telle motion, pas plus tard que la semaine prochaine. En tout cas, c'est une menace qu'il a brandie.
Alors, ces jours-ci, on voit apparaître un personnage très très important, c'est le speaker. Son prédécesseur était sans doute plus terne. Il s'appelle John Bercow, vous l'avez rencontré, et il ne cesse d'essayer de réguler l'Assemblée. Quand il dit « order, order », c'est entendu tellement de fois dans tous les foyers britanniques que c'est devenu une formule qu'utilise chaque père et chaque mère de famille.
L'homme qui s'échine à faire régner l'ordre est le speaker, équivalent de notre président de l'Assemblée. Voici un florilège de ses difficiles combats ces derniers mois. Monsieur Gove, de l'ordre.
Vous êtes vraiment une personne trop excitée. Vous allez me faire 1000 lignes en écrivant « Je me comporterai bien à la séance de questions au gouvernement ». Silence ! Silence ! Faites du yoga ! Monsieur Robertson ! Calmez-vous ! Le lion doit retourner dans sa tanière. Je dis aux enfants du Premier ministre de se calmer et de se comporter en adulte. Et si vous ne pouvez pas, si c'est trop vous demander, alors quittez la chambre. Sortez, on se débrouillera sans vous.
Alors comme vous avez une haute idée du spectacle parlementaire, c'est pas sur vous qu'il faut compter pour dire que c'est du cirque, Elizabeth Gibson.
Alors c'est une partie apparente du travail de la Chambre, mais n'oublions pas qu'elle effectue un travail de fond au sein de ces commissions parlementaires dont l'autorité n'a cessé de se renforcer. Mais pour revenir sur ce personnage tout à fait exceptionnel, la personnalité forte qui est John Bercow, il faut se replacer dans les circonstances, ou se remémorer que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Du fait non seulement du Brexit, mais du fait également que le gouvernement actuel est un gouvernement de minorité depuis les élections anticipées de juin 2017. Alors, le speaker ou président de la Chambre des communes préside les débats, il invite les députés à prendre la parole, il assure le bon respect des règles parlementaires, s'appuyant pour cela sur les précédents, sur les grandes conventions de la Constitution. C'est un personnage qui est politiquement indépendant et qui a une grande autorité. Et encore une fois, son rôle essentiel est celui d'être le défenseur du Parlement, ce que s'efforce de faire John Bercow, qui a introduit des réformes significatives pour donner justement, redonner la parole aux députés de base.
Ce que ne comprend pas nécessairement le grand public, parce que donc, le speaker dit qu'il ne peut pas y avoir un troisième vote sur l'accord de sortie, ce que demande Bruxelles. Vous parlez de la possibilité, la semaine prochaine, d'une motion de censure déposée par le leader travailliste. Aucun dit qu'on pourrait fermer la session parlementaire, en ouvrir une autre au mois d'avril et non pas au mois d'octobre. Vous qui comparez souvent la crise de la démocratie représentative en France et le fonctionnement de la démocratie représentative au Royaume-Uni, vous avez des observations optimistes à faire ?
Oui, je dirais que le Parlement, en fait, fonctionne bien et que finalement la crise à laquelle on assiste actuellement est plus une crise qui touche le gouvernement et le problème de l'absence de solidarité collective au sein du gouvernement plutôt que celle du Parlement. Le Parlement s'illustre par l'un de ses rôles principaux aujourd'hui qui est justement de contrôler l'action du gouvernement.
Qu'il exerce jusqu'au bout.
Qu'il exerce jusqu'au bout et il montre justement l'indépendance qu'il a. Mais encore une fois, est-ce que ça n'était pas le but du Brexit ?
Mais le gouvernement, lui, il est en deçà de ses possibilités. D'ailleurs, y a-t-il encore un gouvernement ? Parce que les ministres se désolidarisent, ce qui n'est quand même pas si fréquent à ce rythme-là, et beaucoup de postes ne sont finalement plus tenus.
C'est un gouvernement très affaibli, comme je le disais tout à l'heure, depuis qu'il a perdu sa majorité, ou depuis que le Parti conservateur a perdu sa majorité aux élections de juin 2017, c'est un Premier ministre qui arrive en position très affaiblie par rapport son gouvernement et comme négociateur auprès de l'Union européenne également.
Et puis c'est une crise plus générale du bipartisme puisque la question européenne en fait éclater les cadres et rappelons-le, les élus sont élus au bout d'un seul tour de scrutin. C'est le premier qui a franchi le poteau qui est proclamé vainqueur et c'est ça qui maintient peut-être artificiellement le bipartisme. Merci à vous, Elizabeth Gibson-Morgan, et vous rentrez au Parlement à Westminster, bon pied, bon oeil, j'imagine, la semaine prochaine. Et chez Mathieu Vidard, salue quand même nos collaborateurs, Clément Berman, Audrey Ripouille, Frédéric Martin, qui ont préparé cette émission, qui l'ont réalisée. Chez vous, Mathieu.
Oui, dans La Tête au Carré, on parle science et éthique, Jean, dans un instant.
Avec Catherine Bourguin et Axel Kahn.